Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport en direct d'Angers.
Jean-Christophe Drouet.
10h09 de retour dans les grandes gueules du sport. Oui, en direct d'Angers à l'occasion des championnats de France d'athlétisme qui vont se dérouler notamment aujourd'hui, qui vont se poursuivre, qui ont débuté vendredi. Vous le savez, c'est votre émission jusqu'à midi. On a beaucoup de choses à vous raconter, toujours avec les GG Fred Weiss, Sarah Pitkowski, Ludovic Duchesne et notre nouvelle GG Pierre-Ambroise Boss. Pierre, tout se passe bien ?
Tout se passe beaucoup trop bien, c'est bon. Inquiétant.
C'est un peu trop calme, je suis d'accord. Parce que c'est le bras de fer des GG dans quelques instants. Didier Deschamps joue-t-il sa place face à la Belgique en huitième de finale. Vous allez être ensemble face à deux autres GG dans quelques instants. C'est la dernière chance pour Renaud Lavillenie aujourd'hui s'il veut se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris. Objectif cet après-midi, passer 5m82. Serait-ce un échec pour lui de ne pas aller aux Jeux ? Ce sera notre question à partir de 10h30. Et puis... magique, magnifique, Romain Bardet qui va porter le maillot jaune pour la première fois de sa carrière aujourd'hui. A-t-il enfin l'aura des Pinot, l'aura des Alaphilippe ? Nous ouvrons le débat à partir de 11h, nous serons en direct d'Italie avec nos envoyés spéciaux. Justement, quand on parle de Tour de France, il y a cette musique, mais il y a également des cadeaux à gagner. On vous offre deux places dans la caravane du Tour de France avec Tourtel Twist. Vous assisterez à l'arrivée de l'étape du jour dans un espace VIP situé sur la ligne d'arrivée. Ce sont vraiment des conditions magnifiques. Alors si vous êtes tiré au sort, vous pourrez choisir parmi trois étapes, soit le mercredi 10 juillet avec cette arrivée à Saint-Amand-Montrond, le vendredi 12 juillet l'arrivée à Pau, ou jeudi 18 juillet l'arrivée à Barcelonnette. Alors pour gagner vos deux places et vivre dans des conditions magnifiques, l'accès VIP pour le final de la course, vous envoyez Tour par SMS au 7-32-16. Tour par SMS au 7-32-16. On débute cette nouvelle heure avec cette citation de Luis Fernandez qui a dit un jour, oui il a dit beaucoup de choses, hein, mais il a dit un jour, échouer peut-être, démissionner jamais.
RMC, le bras de fer GG.
Mbappé côté droit, Mbappé qui va tenter de dribbler, de centrer.
Yeah
oui, contre yeah son corps, le but de Weber, contre son corps, l'équipe de France passe par un petit trou de souris en s'imposant 1-0. La frappe derrière, c'est bon. Et le but, ah, et le but des Pays-Bas. Hors jeu, c'est refusé. Que ça fait du bien. C'est fini à Leipzig dans ce deuxième match de l'Euro. Pas de qualification, ouais, pour l'une des deux équipes. Et surtout, le fait que ce partage des points avait l'air de satisfaire les Néerlandais. Peut-être que sur la fin, ça a satisfait aussi les Français. La course d'élan, Mbappé, yeah, c'est au fond. Lewandowski, la course d'élan, la frappe à côté. Elle est dedans, elle est dedans, au ras du poteau. Ça fait un partout entre la France et la Pologne. C'est terminé. L'équipe de France accrochée par la Pologne.
Ah, on va basculer dans une autre compétition. Le triomphe n'en sera que plus beau, on l'espère, mais l'équipe de France s'est particulièrement compliquée la tâche dans cet Euro. Une deuxième place qui l'a amené dans la partie de tableau la plus difficile, vous le savez, avec le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne. Et donc, pour débuter demain, huitième de finale face à la Belgique, rappelons que l'objectif fixé par le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, c'est le dernier carré. Refusant toutefois toute forme de pression à l'encontre de son sélectionneur, rappelant que Didier Deschamps est sous contrat jusqu'en 2026. Mais une deuxième défaite de suite en huitième de finale de l'Euro ferait tout de même tâche. Didier Deschamps joue-t-il sa place demain face à la Belgique ? Dans le coin gauche, la team oui, Sarah Pitkowski, Ludovic Duchesne. Dans le coin droit, la team non, Fred Weiss, Pierre-Ambroise Boss. Avant de débattre, on va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux auprès des Bleus en Allemagne, c'est Loïc Braillet. Salut Loïc.
Salut JC, salut les GG.
Alors salut. C'est vrai qu'à l'image de son équipe, Didier Deschamps se cherche, hein, depuis le début de cet Euro.
Oui, on a déjà connu un Didier Deschamps, effectivement, avec davantage de certitude et plus sûr de lui. Demain, il devrait aligner une quatrième compo différente en quatre matchs avec un troisième schéma tactique. Après le 4-3-3, après le 4-4-2 à plat, place au 4-4-2 en losange avec le retour d'Antoine Griezmann à la pointe haute de ce losange. Selon nos infos, cette organisation est poussée en interne par son adjoint Guy Stéphan, qui lui en avait déjà parlé en début de préparation et qui en a rediscuté avec le sélectionneur ces dernières heures. Et visiblement, ça l'a convaincu. Deschamps ne veut pas toucher à son trio du milieu de terrain, qui sera donc Tchouaméni, pointe basse du losange, Rabiot à gauche, Kanté à droite. Devant, Mbappé devrait être associé à Marcus Thuram qui a l'habitude de jouer à deux attaquants avec l'Inter aux côtés de Lautaro Martinez. Et derrière, la défense ne changera pas. Maignan dans les buts, Théo Hernandez, Koundé dans les couloirs et la paire Saliba ou Upamecano en charnière centrale. Depuis le départ des familles, jeudi midi, Deschamps a beaucoup parlé à ses joueurs pour remobiliser tout le groupe, que ce soit avec les titulaires, mais aussi avec ceux qui ne joueront quasiment plus, voire plus du tout. Une nouvelle compétition débute, je vous veux tous, messieurs, à 100% pour le bien de l'équipe, quelle que soit votre situation dans le groupe, leur a-t-il dit. Et selon nos infos, même s'il y a de la frustration chez quelques joueurs par rapport à leur faible temps de jeu, ils gardent tous une totale confiance en Didier Deschamps à la veille de ce huitième de finale.
Merci beaucoup Loïc pour ces précisions. Tu restes avec nous pour ce débat. Didier Deschamps joue-t-il sa place demain face à la Belgique? On vous a posé cette question sur le compte Twitter, le compte X des grandes gueules du sport. Il y a une tendance qui se dégage nettement. C'est oui à 66%, non à 34%. Fred Weiss, Pierre-Ambroise Boss, vous êtes dans le camp du non. Vous êtes en retard, vous débutez. Fred, pourquoi non?
Pourquoi non? Parce que tout simplement, la fédération de football avait le choix de reconduire Didier Deschamps jusqu'à la fin de cet Euro, donc jusqu'à 2024, ou effectivement de continuer jusqu'au Mondial. Ils ont choisi volontairement, sans qu'on leur mette un pistolet sur la tempe.
Qui a choisi?
Oui, il est où celui qui a choisi? Qui a proposé?
Tu t'en rappelles?
Peu importe.
Peu importe.
Oui, sauf que ça a un coût.
Noël Le Graët. Voilà.
Oui, mais sauf que ça a un coût de se séparer d'un entraîneur. Donc l'actuel président de la Fédé a confirmé qu'il était d'accord avec ça. Donc même si c'est pas lui qui l'a signé, il l'a validé. Donc à partir de là, il y a des contrats qui sont établis. Depuis le début, on dit, trouvez-vous normal qu'il ne soit pas mis sous pression? Ben, on va pas maintenant s'étonner du fait qu'il ne soit pas sous pression. Il n'est pas sous pression parce que c'est comme ça que ça a été décidé, parce que c'est de la volonté.
Il a pas de pression contractuellement.
Contractuellement.
Mais Didier Deschamps est quand même. Il y a, au-delà d'un contrat, il y a la morale.
Il n'y a pas de pression là.
Il y a la remise en cause de soi-même.
Mais qui te dit que si ça se passait mal, lui ne démissionnerait pas?
C'est pour ça qu'on s'est mis un peu du côté du oui.
Sauf que ça n'a aucun rapport avec la question. Ça n'a aucun rapport avec la question.
Ah si.
C'est quoi la question?
La question, c'est est-ce que sa place est remise en cause après le match contre la Belgique? Oui.
Mais donc, il ne sera pas mis en cause. C'est lui qui se mettra en cause. Contractuellement, lui, il n'est pas remis en cause. Et que lui soit assez intelligent pour se rendre compte que s'il rate, il est obligé de...
Tu viens chez nous.
C'est 12 ans.
12 ans, c'est la plus grande longévité pour un sélectionneur.
Et en quoi
12 ans, il y a rien de grave. C'est-à-dire qu'au bout de 12 ans, il y a forcément une érosion. Il y a forcément un moment où tu fais plus tout à fait les bons choix. Le dernier Euro, il est pas terrible. Heureusement qu'il y a le Qatar derrière. Mais si aujourd'hui il perd contre la Belgique, qui est quand même pas une équipe transcendante, il va y avoir des voix qui vont s'élever. Si contractuellement il est jusqu'en 2026, il est assez intelligent, Didier Deschamps, pour savoir que s'il est plus attendu, s'il est plus écouté par ses joueurs, s'il n'arrive pas à les faire sortir leurs 110%, parce que je ne sais pas ce qu'ils foutent sur le terrain en ce moment, il y a un effectif. Je pense que toutes les sélections
rêveraient d'avoir l'effectif. Mais ça, on ne parle pas de la même chose. Remis en cause, ça ne veut pas dire que lui se remette en cause.
Mais bien sûr, il peut se remettre en cause.
Est-ce que la fédération, qui est son boss, qui est celui qui décide,
va dire pourquoi?
Parce que depuis le départ,
tu débarques.
Les ruptures conventionnelles.
C'est pas parce que tu es sous contrat que tu ne peux pas être
viré.
Ça existe tous les jours, ça.
On parle depuis le début qu'on veut de la continuité.
Vous avez parlé beaucoup de films.
Mais la fois qu'il y a eu un mauvais Euro, il y a eu un très bon Mondial.
Ça fait 12 ans. À un moment donné, il va bien falloir changer un jour. Ce qui s'est passé pendant 3 matchs, c'est rien passé sur le terrain.
Comme d'hab dans les poules, ça arrive très souvent.
Sauf que là, j'ai l'impression que
il est toujours là.
Sauf qu'on est un peu plus marqué qu'avant, avec des choix déjà pas toujours compréhensibles, des tactiques qui sont jamais les mêmes. Demain, a priori, on va encore changer de schéma. Les joueurs sont sur le terrain, ne sont plus, ils n'ont pas forcément d'explication.
Il a perdu
pas mal de ses remplaçants. Il a un discours, d'après ce qui nous revient, qui est de plus en plus cinglant, de plus en plus vexant, et en fait il n'y arrive pas. Pas pour l'instant, je dis pas que demain ça va pas bien se passer, mais vu notre niveau de jeu qui est quand même
catastrophique depuis le début de l'Euro. Très bien, si jamais demain ça ne passe pas, je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Parce que c'est la vie, Fred. C'est qu'à un moment donné, tu passes à autre chose. Il y a un sélectionneur qui attend depuis des années. Ouais. Il faut passer à autre chose. C'est comme ça se passe partout pareil. Il a fait 12 ans, c'est exceptionnel.
Je me répète, après le dernier championnat d'Europe, comment s'est passé le dernier mondial? Explique-moi comment
s'est passé. Mais on va pas attendre le prochain mondial.
J'allais prendre cet argument quand même. Faut pas avoir la mémoire courte non plus. On va venir de la dernière Coupe du Monde. Sans les pénaltys, en fait, s'ils avaient gagné les pénaltys, on aurait été double champion du monde avec un début de match catastrophique en finale. Au final, il a fait quoi? Il a changé de composition, il a enlevé ses cadres. Donc ça reste au final
moi,
payant.
Moi, je ne mets pas en cause ça parce que sa carrière de joueur et de sélectionneur est tout simplement exceptionnel.
Bien sûr, pourquoi il y aurait de l'érosion au bout de 12 ans?
Parce qu'au bout de 12 ans, ça se comprend. Peut-être qu'il a perdu la main. Pour l'instant, on a
ça,
vraiment
c'est
l'impression.
C'est des interprétations qu'on a nous.
Sur le jeu.
Parce qu'on a l'impression qu'il est toujours en train de changer des choses.
Les retours qu'on a, pour l'instant, on a l'impression qu'il a vraiment perdu la main.
Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il parlait ses joueurs aujourd'hui. Et je vous rappelle que c'est pas le seul à blâmer quand effectivement le niveau de jeu dans les poules est pas extraordinaire. Voilà les.
Il y a les joueurs.
Regardez les stats.
Tu as raison. Ça a jamais été extraordinaire.
On est à 109 km, je crois, de moyenne par joueur pour l'équipe de France, qui est nettement en dessous de certaines équipes. Ça prouve aussi que les joueurs sont fatigués. Et c'est pas que Didier Deschamps.
Ça, c'est dans toutes les sélections. T'as raison.
Non, pas tout.
Les Belges, Espagnols, les Portugais, tout le monde est fatigué. Tout le monde joue dans des grands clubs.
Non, mais l'idée.
Il trouve que nous, on est particulièrement fatigués depuis.
On a tous envie que.
Mais la crise est pire en Belgique en ce moment.
Aille loin.
Oui, c'est pour ça que cette défaite.
Pas aux Belges. Non, mais
c'est pour ça que cette défaite face à Belgique serait catastrophique. Tu as raison. Parce que la Belgique est pas.
Quand tu as deux équipes qui sont dans un état catastrophique, parce qu'il faut se rendre compte quand même de l'état catastrophique de la France. Et là, c'est là que je vous rejoins sur les matchs de poule. Tu mets un penalty et un but contre ton camp.
Pourquoi ça serait catastrophique? Ça reste des matchs à élimination directe.
Pierre Ambroise.
Donc c'est du foot en fait.
Ouais, il peut tout se passer. On est vice-champion du monde, tu l'as dit.
Voilà, ils peuvent faire le match parfait. Encore sortir dans les premières minutes.
Mais alors déjà, ils sont ils sont pas encore sortis. Et deux, ça peut forcément arriver. Et en quoi ça pourrait être grave?
Non, mais on dérive. On parle de Deschamps.
C'est-à-dire qu'on oublierait. Didier Deschamps.
Non, jamais t'oublieras. Pourquoi oublier?
Il a fait trois matchs moyens. Et ben on va le virer.
Mais non. C'est-à-dire que si on le vire après, Donc disons Ludovic, si on le vire après le dernier euro, quand on se fait éliminer par la Suisse en 8e.
Moi j'étais pour.
On n'est pas en finale.
Ça,
on n'a pas le meilleur match,
t'aurais gagné la Coupe du Monde avec Zidane.
On sait rien justement.
C'est pas Deschamps qui nous amène en finale. C'est Mbappé qui nous sauve la finale. Cette finale face à l'Argentine, c'est Mbappé qui nous remet dans le sens de la marche. C'est pas une histoire du Didier Deschamps.
Il a changé la compo.
C'est grâce à Mbappé, mais quand ça perd, c'est à cause de Deschamps, c'est ça? Pour résumer.
Je suis pas d'accord avec Sarah, parce qu'il fait rentrer Kolo Muani, assez rapidement dans le match, et en fait le match tourne. Après il se trouve qu'on a un génie
dans le match en 67e minute à peu près, je crois.
Même à la mi-temps, je crois qu'il y a des
revenir à ce que dit Fred, tu découvres le sport de haut niveau, il y a forcément à un moment donné, je dis pas qu'il faut que ce soit Deschamps, mais il y a forcément un responsable en fait, et le responsable
c'est l'entraîneur.
Si ça perd, et personne le souhaite ici, mais si ça perd, Didier Deschamps sera pointé comme le responsable.
Mais qu'il soit responsable,
heureusement,
je l'entends. Quand tu es éliminé contre la Suisse, ok. Et mais t'as entendu ce qu'a dit Ludo? Lui, il le reconduit pas. Je suis désolé. Moi, je pense que c'était un bon coup de le reconduire. Parce que faire finale.
Peut-être, mais c'était il y a 4 ans.
Et maintenant, qu'est-ce qui a changé entre les deux?
Donc maintenant, tu changes plus rien.
Mais non. Mais en fait,
on va avec lui jusqu'où alors?
Pour une fois dans le sport, essayons de respecter un contrat. Essayons de laisser l'opportunité à quelqu'un qui a prouvé.
Mais on lui a laissé déjà.
De continuer. Bah oui, il est vice-champion du monde.
Mais oui, on lui a laissé. Mais tu sais pourquoi il dit ça, Fred? Parce que lui vient d'un sport où on change pas de sélectionneur. Les années chez toi, Vincent Collet, ça
n'a
jamais.
C'est faux, ça a énormément changé.
Parce
qu'il y a plein de performances, Vincent Collet.
Non, alors, tu vois,
c'est un bon exemple.
Regarde Claude Onesta, un moment avec l'équipe de France de hand, il a fait des choses extraordinaires, il passe la main. Il faut bien passer la main à un moment.
Je suis d'accord, il faut bien passer la main à un moment, mais pourquoi là, maintenant?
Parce que si on est éliminé sur le terrain, c'est catastrophique.
Parce que le niveau de jeu a rarement été aussi faible.
Oui, mais
parce
c'est déjà arrivé dans d'autres phases de poule. Là, je rejoins Pierre Ambroise, ça peut pas augurer de la suite.
À ce niveau-là, je sais pas. Là, c'est vraiment très inquiétant. Les retours qu'on a, même des joueurs, sont très inquiétants. Son discours est de plus en plus musclé, de plus en plus vexant et blessant.
Justement. On va prendre des nouvelles avec Loïc Braillet qui suit évidemment au quotidien cette équipe de France. Et c'est vrai que il y a eu des informations sur RMC Sport, notamment rmcsport.fr, comme quoi, bah voilà, il y avait certains joueurs, mais c'est l'eau aussi du haut niveau qui ont été piqués, vexés. On pense à Antoine Griezmann, on pense à Olivier Giroud. Comment ça se passe là dans le groupe? Est-ce qu'on a d'autres informations, Loïc Braillet?
Alors c'est sûr que son management a été un petit peu renforcé, c'est musclé, c'est vrai. Ces derniers jours, il n'a pas l'habitude de ne pas pouvoir faire tourner sur son troisième match de poule, puisqu'en général il est qualifié dès le deuxième. Ce n'était pas, alors c'était le cas si avant de jouer, mais en tout cas il fallait qu'il montre autre chose sur ce troisième match. Donc il a opté pour une compo un peu plus conservatrice que d'habitude, et du coup ça a bloqué la route à plusieurs joueurs qui pouvaient espérer avoir davantage de temps de jeu. Donc oui, son management s'est musclé. Oui, il y a eu de la frustration. Il y a même des joueurs qui ont clairement fait la gueule. Hein. Griezmann, ça n'a pas duré très longtemps, mais il n'était pas bien lorsqu'il a appris qu'il n'allait pas jouer le troisième match. Il y en a beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, Konaté a été très franc en conférence de presse en disant que il n'était pas bien du fait de ne pas jouer, même s'il est moins bien physiquement. Et donc, du coup, il y a des arguments assez objectifs qui expliquent pourquoi il ne joue pas plus. Mais par rapport à Deschamps, il ne faut pas oublier que Deschamps, sa philosophie, elle est extrêmement claire. Le résultat et rien d'autre. Et force est de constater que depuis 12 ans, les résultats sont là. Il n'y a aucun souci. Là. Mais le problème, le jour où les résultats ne sont plus là pour Didier Deschamps, il est nul. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc tant qu'il y a ces résultats, pas de souci. Oui. En 2021, il est passé outre cet échec, parce que tout le monde l'a vécu comme un échec en l'Euro 2021. Ouais. Donc il y a survécu. Derrière, il est finaliste de la Coupe du Monde. Fin du débat. Si aujourd'hui, demain, il est éliminé avec un jeu aussi pauvre qu'en phase de poule, avec une faiblesse offensive aussi abyssale que lors du premier tour. Évidemment qu'en tout cas, le système médiatico-sportif va le remettre en cause, ça c'est évident. Au sein de la fédération, sans doute qu'il sera toujours soutenu par Philippe Gallo. Et je mets mes deux mains à couper, je suis pas dans sa tête, mais je mets mes deux mains à couper que jamais de la vie, il ne démissionnera. Didier Deschamps, on va rappeler qu'il y a Zinedine Zidane qui est en réserve de la République et qui attend son heure, donc il y aura une grosse pression insidieuse par rapport à ça, et que du coup s'il n'a pas de résultat sur cet euro, d'une, ce sera un échec par rapport aux objectifs fixés par Noël Le Graët à l'époque et validé ensuite par son successeur Philippe Diallo, et qu'à un moment donné il faudra quand même observer et analyser le contenu des matchs. S'il n'y a pas le résultat, il faudra que quelqu'un en soit responsable et paye l'addition.
Ok, Stéphane nous appelle au 32-16, il veut rebondir, réagir à notre débat. Salut Stéphane.
Oui, bonjour tout le monde. Bonjour,
merci d'être avec nous. Stéphane, t'es plutôt dans le camp du oui ou dans le camp du non? Alors, Didier Deschamps joue-t-il sa place demain face à la Belgique?
Dans aucun des camps, à vrai dire. Moi, ce que je pense, c'est que...
Denis Charvet.
Moi, ce que je pense, c'est que c'est seulement lié à une histoire de cadre générationnel. Sous-entendu, vous avez les cadres comme Pogba, qui n'est plus en équipe de France. Loris a pris sa retraite internationale. Je pense que les derniers cadres dont on parle ici, ce sont Griezmann et Giroud. À partir du moment, pour Giroud c'est acté, mais à partir du moment où Griezmann quittera l'équipe de France, là Didier Deschamps posera vraiment la question. Je ne pense pas que le résultat de demain ou les résultats futurs d'ailleurs s'il décide de rester impactera le fait qu'il reste ou non en équipe de France. C'est simplement une histoire de génération.
Simplement une histoire de génération, Ludovic.
Oui, moi je pense que de lui-même il ne partira pas. Il ne partira jamais, il faudra lui montrer la sortie. Mais comme Loïc l'a dit tout à l'heure, il a toujours tout basé sur les résultats. Et il a eu des résultats comme personne d'autre. Donc c'est peut-être le plus grand sélectionneur qu'on a eu. Je trouve qu'à un moment donné, c'est ce que je voulais. Loïc est toujours avec nous.
Oui, oui.
Oui, je suis là.
Juste, Loïc, demain on parle d'une composition avec un jeu en losange. Oui, j'étais pas bon en maths. En losange, ça serait une première depuis longtemps. Oui. Et là encore une fois, c'est une composition. On va pas dire lunaire, mais qui me semble assez inquiétante. Et est-ce que c'est pas la preuve qu'il a vraiment perdu le fil?
Alors, perdu le fil, c'est peut-être un petit peu sévère, mais c'est sûr que c'est pas quelque chose avec lequel il est arrivé dans ses bagages tactiques, dans sa préparation, et qu'il, c'est pas qu'un plat que tu prépares et que tu sers une fois que le service est arrivé. C'est pas du tout comme ça. C'est de l'impro la plus totale. Et on nous a confirmé hier par plusieurs sources que c'est notamment les discussions avec Guy Stéphan et qui ont fait changer d'avis, en tout cas qui ont orienté la réflexion de Deschamps vers ce système. Là, je ne vais pas dire que ce n'est pas venu de lui, mais en tout cas, il n'était pas seul dans sa réflexion. Signe, et ça c'est votre, l'intitulé de votre débat, que oui, Deschamps tâtonne, Deschamps hésite, Deschamps
Barcola,
n'est pas tout à fait sûr.
Très bon contre la Pologne, Barcola il saute.
Barcola il saute, alors peut-être
priori,
qu'il estime
hein,
qu'il est un petit peu... Ouais, ouais, je te confirme. A priori, il estime qu'il est peut-être encore un petit peu tendre, ce qui peut s'entendre, hein. Il est quand même extrêmement jeune, Barcola, un petit peu tendre pour être titulaire dans un huitième de finale d'un euro. Mais on a un Deschamps qui est sûr, qui tâtonne tactiquement, qui n'est pas sûr de lui et qui tente un coup.
Est-ce que c'est pas une bonne chose, ça, justement, qui tâtonne? Est-ce que c'est pas justement une preuve qu'il s'adapte? Non. Parce que c'est trop facile de dire qu'il est conservateur d'un côté et que de l'autre côté, quand il tente des choses, tout le monde dit, ah ben non, mais pourquoi il tente des choses?
Et si ça marche, on lui dira bravo.
Il y a pas d'érosion. Il y a eu une évolution dans son, sa façon de manager, et c'est tout à fait normal.
Et on le sait, on se pose la question aujourd'hui, parce qu'en cas de défaite en huitième de finale, la question forcément se posera. Tu parlais de contexte médiatico-sportif, forcément la question se posera. Et puis sinon, il faut présager de rien avec Didier Deschamps. Il peut emmener cette équipe en finale et même gagner 7 euros sans aucun problème. Et on jettera ce débat à la poubelle, mais c'était important de l'avoir avant le début de ces huitièmes de finale. Merci beaucoup Loïc d'avoir été avec nous en direct d'Allemagne.
Journée.
Toutes les informations sur les Bleus à retrouver sur rmcsport.fr. Juste Loïc, l'heure de la conférence de presse avant match?
Oui, elle est très tardive. 19h30 à Düsseldorf, où se déroulera le match demain.
Pour une fois?
Aucune idée, on a de bon espoir qu'il soit là.
Ok, ah. Didier Deschamps et peut-être donc Kylian Mbappé, ce sera à suivre sur RMC. Toutes les informations, je le disais, sur rmcsport.fr. Alors, c'était le premier bras de fer de Pierre-Ambroise Boss dans cette émission. Bras de fer qu'il a démarré à la traîne, hein, je vous le rappelle, 64%, 66% face à 34%. Eh bien, vous avez perdu, messieurs. 67-33, voilà, c'est la fin de ce bras de fer. Oui, Didier Deschamps,
à double titre,
place demain.
Faut savoir perdre, Pierre-Ambroise, t'inquiète. N'espère pas pour autant que la France se fasse éliminer pour qu'on ait la réponse.
Et puis, quand on perd avec Fred, finalement, on perd avec les honneurs ou pas?
Ouais, parce qu'on est, mais parce qu'on est, on est trois, c'est pour ça.
Oui, c'est vrai qu'il ne peut pas dire le contraire. Il est deux tout seul, tu as raison. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. On va parler d'athlétisme, forcément, nous, ici, en direct d'Angers, à l'occasion de ces championnats de France. Et à partir de 13h, le concours que l'on attend tous, la perche avec Renaud, la ville et Nîmes. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport en direct d'Angers.
Jean-Christophe Drouet.
10h33, de retour dans les grandes gueules du sport. Oui, en direct d'Angers pour les championnats de France d'athlétisme avec en point d'orgue, on va en parler dans quelques instants, Renaud Lavillenie qui à partir de 13h va tenter de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Bref, un programme magnifique et une journée fantastique sur RMC avec ces championnats de France, également avec l'Euro 2024, mais aussi le Tour de France. On en parlera d'ailleurs à partir de 11h du Tour de France et de Romain Bardet, le premier maillot jaune de ce Tour de France 2024. Toujours avec Fred Weiss, Sarah Pitkowski, Ludovic Duchesne et notre nouvelle GG Pierre Ambroise Boss dans 10 minutes. Restez bien avec nous. Christophe Lemaître, qui a annoncé la fin de sa carrière cette semaine, sera notre invité exceptionnel, l'un de nos invités, car nous recevrons également Mélina Robert-Michon ou encore Teddy Tamgo, qui n'a pas réussi son défi fou et qui ne sera pas aux Jeux Olympiques de Paris. Alors les Américains appellent ça le money time, les footballeurs appellent ça le temps additionnel, les tennismans la balle de match, les perchistes on sait pas. En tout cas, c'est la dernière chance aujourd'hui pour Renaud Lavillenie de décrocher son billet pour les Jeux Olympiques de Paris ici à Angers cet après-midi. Le dernier champion olympique de l'équipe de France d'athlé a un objectif, passer la barre de 5m82, les minima. La semaine dernière, lors de son avant-dernière tentative, c'était à Toulouse, nous l'avions quitté un peu chafouin. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Après déjà, le truc c'est que quoi qu'il arrive, j'ai pas perdu. C'est-à-dire que même si je me qualifie pas au jeu, on en fait des tonnes, etc. Forcément, mais il y a 9 mois quand je me suis fait ouvert la fesse, je pense qu'il y avait personne qui s'est dit bon, Lavillenie va pouvoir se qualifier au jeu. Personne. Là, on s'est retrouvé en 2 compétitions, je suis à 10 cm des jeux, et tout le monde se réveille. Oh putain, bah oui, j'ai pas gagné X médailles en championnat et X dizaines de meetings internationaux par hasard. J'ai gagné parce que la perche, pour moi, c'est toute ma vie. Je vais être dos au mur, je vais me donner les moyens d'y arriver, quoi qu'il arrive. Et puis voilà, ça sera dans l'absolu, ça sera un exploit si j'y arrive, mais ça sera pas mon premier exploit de ma carrière.
Le discours offensif de Renaud Lavillenie la semaine dernière, serait-ce un échec pour lui de ne pas aller au jeu? Oui ou non, Sarah Pitkowski?
Non.
Ludovic Duchesne?
Bah moi je l'ai bien écouté, non.
Fred Weiss?
Moi j'ai bien écouté, oui.
Je mets d'accord ces deux-là. Pierre-Ambroise Boss, oui ou non?
Ah, son interview me fait presque changer d'avis, mais non, je le connais bien, c'est un oui. ce serait un échec pour lui, je le sais.
Ok, donc c'est un oui. Avant de débattre, notre commentateur ici à Angers, Pierre Thévenet, rebonjour Pierre.
Rebonjour à tous.
Depuis un mois, Renaud Lavillenie enchaîne les meetings en vain pour l'instant.
Ouais, il est revenu à la compétition fin mai après 8 mois d'arrêt à cause d'une opération aux ischio-jambiers. Depuis, c'est une véritable course contre la montre pour passer, tu l'as dit, cette barre fatidique des 5m82 qu'il a franchi un nombre incalculable de fois en carrière, mais pas depuis 2 ans. Il avait bien commencé avec notamment une barre à 5,72 passée en Pologne, c'était le 31 mai. Mais depuis 3 semaines, il a une rechute aux ischio qui l'handicapent fortement et il n'a pas passé mieux que 5m40 aux 3 dernières compétitions, au Bourget, à Grenoble et à Toulouse. Mais il le dit lui-même, il a déjà connu des situations aussi stressantes en carrière et en plus de ça, il arrive en fin de convalescence. Il va mieux physiquement. Son rival et partenaire d'entraînement, Thibaut Collet, en est sûr, il est capable de l'exploit.
Il est dans une situation qui est horrible parce que si c'était pas refait mal à l'ischio il y a 3 semaines, moi j'aurais misé tout ce que j'ai sur le fait qu'il allait faire 82 parce que bah, il était reparti quoi, comme en 40 quoi. C'était impressionnant à voir et le fait qu'il se soit fait mal, bah, ça l'a pas aidé. Mais par contre, il y a un truc qui est fou, c'est qu'il a pas lâché et que c'est peut-être un des seuls mecs sur Terre qui, ayant une déchirure, arrive à faire ce qu'il fait. Il a retrouvé pleine possession de ses moyens. Donc moi je pense qu'il est capable de se qualifier demain pour les Jeux.
Il en est capable, c'est sûr, mais là, il a quand même une pression assez incroyable. C'est tout simplement sa dernière chance. Pas de calcul à faire, pas de 5m82, pas de Jeux Olympiques. Mais le plus fou, c'est que ça ne semble même pas plus le perturber que ça. Quand on lui demande comment il vit le fait de peut-être manquer les Jeux, il reste totalement serein.
Pour moi, c'est quelque chose déjà que j'ai assimilé depuis un an. Si j'avais 25 ans et que je ratais les Jeux à la maison, oui, ça serait compliqué. J'en ai 37, j'ai déjà vécu 3 JO. J'aurais pu... clairement ne pas être dans une situation où j'aurais pu défendre mes chances. Donc voilà, je savoure ça et puis je vais pas me laisser abattre et j'irai jusqu'au bout comme je l'ai souvent fait depuis 15 ans à chaque compétition.
Il est content d'être là, de pouvoir défendre ses chances, déterminé bien sûr à réussir cette performance. On sait de quoi est capable Renaud Lavillenie quand il est dos au mur. Une chose est sûre, il donnera tout cet après-midi à partir de 13h.
Merci beaucoup Pierre Thévenet. Serait-ce un échec pour lui de ne pas aller au jeu? C'est un oui Pierre-Ambroise Boss. Pourquoi oui?
Alors pourquoi oui? Parce que je le connais assez bien et il a un fort ego, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que lui, il y a, comme il l'a dit en interview, il y a la club perche qui l'intéresse. Il a un tapis de perche chez lui. Toute sa vie, c'est ça. Il dédie absolument tout son quotidien à la perche. Enfin, pas vraiment, parce que il est aussi pilote, je vous le rappelle, de moto. Mais peu importe. Il y a de quoi être inquiet pour une vraie raison. C'est son opération de l'ischio. Moi, j'ai arrêté ma carrière là-dessus, en fait. C'est une opération du tendon. Donc, il te cale des vis et c'est biologiquement, ça doit prendre. Et à 38 ans, forcément, ça a moins pris que s'il avait fait une opération à 25 ans. Donc, son opération a bien fonctionné, mais quelques mois plus tard, il y a une déchirure qui est revenue. Ça, c'est moins inquiétant que si c'était le tendon en lui-même. Donc une déchirure, on revient plus vite. Il a réussi à refaire 5,70 assez rapidement parce qu'il a une énorme expérience, parce qu'il connaît très bien son sport et il connaît très bien son corps aussi. Malheureusement, il a dû avoir de nouvelles faiblesses qui sont apparues à cause de ça, peut-être des compensations. Donc j'ignore sur quel ischio il a eu son... Est-ce que c'est la même jambe ou pas? Ça, c'est peut-être des signes aussi. Ce que je peux vous dire, c'est que ce mec-là, il a un mental que personne n'a. J'en ai jamais rencontré des comme ça dans toute ma vie. Donc, je suis intimement convaincu que pour lui, ça serait un échec de pas y aller.
Même s'il
a beau dire ce qu'il veut, oui, en interview, ça. Je sais qu'au fond de lui, il y croit et c'est pour ça que je suis persuadé qu'il va faire 82 aujourd'hui.
Ok, vous répondez quoi à ça, les
juges? Moi, je dis, est-ce qu'il peut le faire? Oui. Est-ce que ce sera un échec? Non. Pourquoi? Parce que c'est un... Je le place tout en haut du sport français, en fait.
Moi aussi.
C'est un immense champion. Il faut pas oublier qu'il a sauté 6m16, qu'il a eu le record du monde pendant des années, 5-6 ans, je crois. Il a été champion olympique, mais comme tu l'as dit, il est blessé.
Non,
bien sûr. Et ces derniers mois, ces dernières semaines, il a eu du mal à passer 5-40, 5-60. Il a fait 5-72 en Pologne. Mais voilà, on sent bien qu'il arrive au bout. Pourquoi? Parce que quand t'es blessé et quand t'es perchiste, c'est très compliqué, en fait. Vu l'impulsion qu'il doit donner pour passer au-dessus d'une barre, c'est un truc de la
c'est
un truc de barjo.
Ça serait un exploit d'y arriver. Mon avis,
est-ce que ça change sa carrière? Bien sûr que non. Mec, il est tout en haut. C'est comme tu l'as dit, toi, tu le connais encore mieux que nous. Mais c'est un des plus grands sportifs français. Moi, je le place tout en haut.
Moi j'adore l'argumentaire de Ludo. J'adore l'argumentaire de Ludo. C'est exactement celui que j'aurais donné. Mais dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'en gros, effectivement, c'est un des plus grands sportifs français. C'est quelqu'un qui arrive à se motiver de façon incroyable, qui a un ego surdimensionné comme la plupart des sportifs, mais qui a cette capacité à se transcender. Lui, c'est pas un être humain normal, c'est pas un mec comme Ludo, par exemple. Oui, c'est quelqu'un qui est capable de faire un exploit le quotidien. Il l'a fait toute sa vie. Il a effectivement, c'est un énorme champion. Donc, pour lui, évidemment que c'est un échec parce que lui, ce qui nous paraît quelque chose d'extraordinaire, c'est la normalité. Lui, l'extraordinaire, c'est sa vie. Il l'a toujours fait.
Mais Fred, faut que t'écoutes ce qu'il dit quand même. Mais il l'a expliqué là.
Oui, mais entre
te prépares à ça. Parce que quand t'es champion, je crois que Pierre Ambroise va pouvoir nous l'expliquer. Tu te prépares aussi à ça. Et pourquoi? Parce qu'il est blessé, tout simplement. Non, mais s'il est pas blessé, il l'a dit. Je l'ai sauté 400, 500 fois les 182. Il le saute tous les matins au déjeuner.
C'est pas parce qu'il se prépare à faire et à l'échec que ce n'est pas un échec. Au contraire, justement, il faut se préparer. Surtout quand tu arrives sur une fin de carrière, il faut que tu prépares mentalement à te dire que il se peut que même toi, Iron Man, ce super héros, parce que c'est, je suis d'accord avec toi, c'est pas un sportif, c'est un super héros. Et ben, quand un super héros arrive au bout du bout, ben, il faut se préparer aussi à l'échec. Mais ça n'empêche pas que ça
n'en soit pas. Sarah Pitkowski, pourquoi non, ce ne serait pas un échec?
Ce sera pas un échec d'un point de vue d'observateur. Que lui le ressente, et je suis d'accord avec toi Pierre-Amboise, que lui, intérieurement, avec ce qui s'est fixé, s'il ne se qualifie pas pour les Jeux, ce sera un échec. Mais nous, observateurs, on ne peut pas aujourd'hui, légitimement, dire que s'il ne se qualifie pas pour les Jeux, ce sera un échec. Parce que ce serait, par rapport à la carrière qu'il a fait aujourd'hui, les médailles qu'il a rapportées à l'équipe de France, les records mondiaux qu'il a eu.
C'est notre dernière médaille d'or, c'est notre super héros de l'athlétisme. Et donc forcément, ce serait un échec parce qu'on a envie de le voir.
Donc le commentaire d'observateur, que ce soit la presse, que ce soit qui que ce soit tous les observateurs, les consultants, à aucun moment on peut se permettre de dire aujourd'hui que ce serait un échec s'il n'était pas qualifié.
Attendez les copains, on est là pour quoi aujourd'hui? On est là pour évidemment ces dernières journées des championnats de France.
Pour éventuellement vivre un exploit.
Mais on est là aussi.
On y croit.
Mais je veux dire, on est là aussi parce qu'il y a Renaud Lavillenie.
Oui,
donc c'est dire qu'il représente en France dans le sport français.
Bah, c'est une icône du, c'est l'héritier de l'athlétisme. C'est une icône de l'athlétisme.
Donc quelque part, on a besoin de ça. Si on a besoin de ça, est-ce que c'est un échec?
Il faut se mettre dans le contexte. En fait, il s'est fait opérer d'une opération, d'un ischio-jambier pour une seule raison, pour aller aux Jeux.
Mais sinon, il
s'est pas fait opérer pour aller aux championnats du monde. Il est déjà champion du monde, le mec.
Mais vous avez entendu Romain Barras parler tout à l'heure? Romain Barras expliquait que n'importe qui d'autre, tu aurais dit non, c'est pas possible. Lui, c'est possible.
On est d'accord
lui,
avec
c'est,
vous.
C'est extraordinaire.
Pourquoi on le commente? Pourquoi faut-il le commenter?
Parce qu'il faut le commenter, parce que c'est en fait, il est au-dessus du panier.
Oui.
Et quand on est au-dessus du panier, on commente forcément. Et forcément, on a
des
attentes.
On est qui pour lui dire que ce sera un échec?
Mais il a réussi à nous convaincre que c'était possible. Et de ce fait, quand tu crois que c'est possible et que tu n'y arrives pas, on est qui
pour juger que ce serait un échec?
On est des observateurs qui aiment le sport et on l'adore et on est super fan.
Et par respect pour lui, non.
Mais Sarah, moi, je me place vraiment de son côté, de son point de vue. Évidemment, si vous me demandez mon point de vue par rapport à sa carrière, évidemment que c'est pas un échec, il a une carrière exceptionnelle. Mais je vous assure que lui, dans sa tête, c'est une certitude qu'il s'est fait opérer pour faire les Jeux.
Tu l'as entendu, Pierre-Ambroise, où il était un petit peu fâché après son avant-dernière tentative donc à Toulouse la semaine dernière, où il dit voilà, vous vous réveillez maintenant, alors maintenant vous me mettez un peu la pression, même s'il a l'habitude d'avoir la pression, mais voilà, maintenant on en parle, on en fait des caisses, alors que moi il y a un an personne ne me voyait y arriver, tout ça. Ce discours, il est fait pourquoi, toi qui justement fais partie de ce monde de l'athlé, tu viens de prendre ta retraite il y a quelques mois, il dit quoi de lui en fait?
Il est un peu agacé, c'est certain. C'est effectivement, ça ressemble à un discours qui commence à se trouver des excuses de pas y arriver, mais au fond de lui, il est pas comme ça. C'est ça le truc, c'est que à mon avis, les médias l'ont agacé. Il a réagi de cette façon, et je pense que en fin de concours, quand on bute sur une barre, à un moment donné, il y a des choses qui sortent, qui devraient pas sortir. Et c'est là où les journalistes sont forts.
En plus,
c'est là où les journalistes sont forts.
Il a tellement passé cette barre.
Ils vont te chercher dans ton ego, et comme il en a beaucoup.
Comme tous les sportifs,
bien sûr.
Ouais, il a répondu avec le cœur. En tout cas, c'était l'extrait de cette interview la semaine dernière. Alors justement, aujourd'hui, c'est l'un des temps forts. Hein, Pierre Thévenet, tu vas le commenter pour nous sur RMC. L'un des temps forts, c'est à partir de 13h, ce concours à la perche.
Exactement, c'est le premier temps fort de la journée. C'est par ça qu'on va commencer cette journée à 13h avec Renaud Lavillenie qui vise donc ses minima, un concours où on verra également Thibaut Collet, bien sûr, qui va faire office de favori, lui qui a passé 5m95 la semaine dernière. D'autres objectifs de minima dans la journée pour Mélina Robert-Michon au disque d'abord, même s'il y a un petit peu moins d'enjeux parce qu'elle a une place réservée grâce à son classement mondial. De belles bagarres pour des places qualificatives à venir sur la piste également, aux 110 mètres haies d'abord, où quatre hommes ont réalisé les minima: Willem Belossian, Aurel Mangas, Sacha Zoya et Raphaël Mohamed, avec en plus un Pascal Martino Lagarde qui est toujours en embuscade. Il n'y aura que 3 places pour ces 5 hommes à Paris. Ce sera à 15h25 pour clôturer la journée. Au 800 mètres hommes, même situation, ou presque 3 places pour 4 dans une course où Gabriel Tual fait figure de favori avec Yanis Méziane, Benjamin Robert et Corentin Leclésio. Et à suivre également la nouvelle star du sprint, Jemima Joseph sur le 200 mètres, elle qui a explosé son chrono sur 100 hier. Et puis Wilfried Apio sur le 400 mètres S sera là également.
Eh ben c'est parfait, on va suivre ça tout au long de l'après-midi avec toi sur RMC. Donc à partir de 13h, Renaud Lavillenie pour le concours à la perche de ces championnats de France. 10h46, Christophe Lemaître qui vient d'annoncer la fin de sa carrière sera notre invité exceptionnel. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport en direct d'Angers.
Jean-Christophe Drouet.
10h49, de retour dans les grandes gueules du sport à l'occasion de ces championnats de France d'athlétisme en direct d'Angers. À partir de 11h, nous parlerons du Tour de France, évidemment, avec Romain Bardet, le premier maillot jaune de cette édition 2024. Toujours avec Pierre-Ambroise Boss, avec Fred Weiss, Ludovic Duchesne, Sarah Pitkowski, un invité exceptionnel. Souvenez-vous, c'était le 18 août 2016.
Michel Bonne qui enchaîne et qui va sortir en tête et du virage. Allez Christophe, il est dans les temps, il peut se battre, t'es protégeant Christophe, t'as foulé, arrache-toi, le maître Bonne, champion olympique du 200 mètres. Il est trop vite, on va attendre.
Il est sur la ligne.
Le maître est sur la ligne au combat.
Il est sur la ligne au combat.
Bonne qui est champion. Hein.
Bonne champion olympique, 19 secondes, 78 centièmes, 8e médaille d'or pour la foudre.
En tour de grâce, 2e.
Le maître.
Il l'a fait dans le même centième qu'Adam Gemelli, le Britannique.
20 secondes 12 pour Christophe Lemaître.
Eh oui, il l'a fait, Christophe Lemaître. C'était en 2012. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Un des points d'orgue, hein, évidemment, de ta carrière avec cette médaille de bronze sur 200 mètres aux Jeux Olympiques de Rio. Et Christophe, il y a quelques jours, tu as annoncé la fin de ta carrière. Quelques jours après, on se sent comment ? Soulagé ? Pas forcément ?
Si, non. Je vais répondre comme j'habite à répondre, c'est-à-dire je me sens comme d'habitude, on va dire. Je me sens bien, je me sens serein. C'était une décision facile à prendre. Je vais être honnête, j'ai eu la chance d'avoir pris cette décision sereinement, même s'il y a eu encore une blessure qui a entaché cette saison, qui a entaché ma préparation, qui m'a empêché de jouer ma carte à fond. Mais ça m'a permis de prendre cette décision. Prendre le temps de réfléchir à cette décision, et je l'ai pris personnellement en discutant un peu avec mon coach aussi, et finalement c'était la meilleure décision déjà pour mon corps, parce que je pense que mon corps n'arrive plus à suivre l'intensité que je lui impose, tout simplement, et du coup c'est une décision qui est mûrement réfléchie, et je suis très très serein avec ça.
Très serein avec ça, c'est vrai qu'il y a eu cette blessure qui évidemment ne t'a pas permis de disputer tes chances pour te qualifier pour les Jeux Olympiques. Est-ce que quand ce sont des Jeux Olympiques à Paris, comme ça, on fait rapidement, finalement, le deuil, ou ça prend du temps ?
Non, je pense que, en fait, c'est comme, même si le contexte est différent, c'est un peu comme pour Rio, c'est-à-dire à Rio, j'ai eu ma médaille, mais... Je suis rapidement passé à autre chose après, parce que forcément je pensais déjà à la suite. Là c'est exactement pareil. Je prends ma retraite et je passe directement à la suite, parce que il y a d'autres choses à vivre.
Bah, Sarah Pitkowski pour Christophe Lemaître.
C'est quoi la suite alors pour toi?
Alors la suite maintenant, ça va être, déjà j'ai quand même, dans le très court terme, j'ai quand même continué ma saison, faire quand même des meetings pour au moins finir ma saison en tant que professionnel sur une bonne note, la finir vraiment sur la piste et pas en étant à la fermerie.
Donc des meetings d'honneur, quoi, pour communier un peu avec les autres athlètes, avec le public français.
Oui, non, parce qu'il y aura des meetings. D'abord, je vais faire dans des petits meetings histoire de reprendre ma saison, histoire de voir où j'en suis. Et puis après, on verra au mois d'août où est-ce que je vais courir. Mais ouais, le premier but, c'est vraiment de finir sur la piste et de bien finir,
finir en tant qu'athlète de haut niveau,
exactement, et pas en étant qu'athlète qui est à la fermerie.
Christophe, juste pour revenir sur ta carrière, ton record personnel c'est 19,80,
c'est ça, oui,
ce qui est déjà assez fou comme temps. Est-ce que tu aurais pu faire mieux?
En tant que sprinter, j'ai envie de dire, on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux parce
que. Est-ce qu'on peut vraiment toujours faire mieux, oui. Non, mais pour le coup?
Bah, je pense que oui, parce que l'année suivante, j'ai fait quand même 19,91 dans un meeting à Londres sous la pluie avec du vent de face. Donc tu prends dans de meilleures conditions. Bah, je pense que ça vaut largement les 19,80, peut-être même mieux. Après, comme on a répété, il y a eu beaucoup de blessures pendant plusieurs saisons qui ont handicapé mes années de préparation. Donc, et il a fallu attendre vraiment Rio où j'arrive à faire 20-02 en demi-finale pour retrouver un très haut niveau qui m'a permis justement d'avoir cette médaille de bronze. Mais je pense que oui, il y avait matière à faire mieux. Mon coach justement. Pierre Carraz pensait vraiment que j'étais capable de faire mieux que ça.
Oui, en plus, tu as fait 17 secondes à l'entraînement, non? Non,
voilà. Mais,
en bagnole, évidemment.
Ça je ne dis pas.
Pierre-Ambroise Bosse, qui est passé par là, hein, qui a annoncé la fin de sa carrière, c'était il y a quelques mois. J'imagine que tu as une question, ou en tout cas un conseil peut-être à donner à Christophe Lemaitre.
Un conseil, non. Je peux simplement déjà lui dire que tout va bien se passer. En tout cas, voilà, on a toujours l'impression que les émotions viennent plus tard. Pour moi, c'est pas encore arrivé. Donc, effectivement, si c'est vraiment ta décision et que tu te sens bien et que si t'es serein avec, je pense que tu vas pas subir les conséquences derrière d'un arrêt de carrière. Je voulais juste simplement revenir sur le 19,80. Moi, je pense que si t'avais fait la même course sans les deux courses, sans la série et la demi-finale, t'aurais fait moins que 19,80 ce jour-là. Déjà, je sais pas si l'aérobie était ton point fort. Je ne pense pas à ce moment-là.
T'es
plus sprinter que demi-fondeur. Donc, on a quand même deux courses avant. Évidemment que tu aurais pu faire mieux, mais 19,80, je pense que les gens se rendent même pas compte.
Non, mais c'est
pas le prochain Français qui va faire 19,80.
Il faut imaginer, c'est un petit peu comme les footballeurs qui ont joué au temps de Messi et de Ronaldo. C'est-à-dire que les titres, c'est compliqué à les chercher. Il faut se souvenir que Christophe Lemaitre, il courait avec Usain Bolt.
Ouais, il est de la génération.
Ça fait quoi, moi, c'est une question de, évidemment, pas du tout de sportif de haut niveau. Ça fait quoi de courir à côté, malheureusement, il était souvent devant, mais avec, dans une même course, avec Usain Bolt, quoi. Au départ, avec Usain Bolt. Est-ce que c'est un truc, même pour toi, sportif de haut niveau qui participait, t'étais acteur, c'est un truc exceptionnel?
En fait, je pense que oui, il faut se rendre compte de... Moi, j'ai toujours pris ça comme une chance de courir contre lui. Quand t'as la chance de courir contre un mec comme ça, qui est le meilleur du monde, moi, en tant que compétiteur, je considère ça comme une chance. C'est pas, j'avais pas peur de courir contre lui, j'avais pas de pression de courir contre lui. Au contraire, moi j'étais impatient de courir contre lui parce que t'as envie... En tant que compétiteur de très haut niveau, tu as envie de courir contre les meilleurs. Tu as envie de courir contre les meilleurs, te confronter à eux, essayer de justement d'aller chercher, d'être à la bagarre avec eux, parce que tu sais que ça va aller vite et c'est une chance, c'est une course où ça va aller vite. Donc il faut en profiter de courir avec ces gens-là pour pouvoir aller vite à son tour. Donc,
est-ce que ça fait progresser? C'est-à-dire que quand tu as devant quelqu'un qui est juste exceptionnel, est-ce que ça tire vers le haut aussi le reste des coureurs?
En tout cas, pour moi, oui. C'est moi, quand il y avait Bolt, je crois que j'ai toujours fait d'assez de bonnes courses quand il y avait Bolt dans ma course, parce que j'avais justement envie de mesurer à lui. J'avais envie d'aller le chercher à chaque course, même s'il était au-dessus du lot. Ça m'a pas empêché de me donner à fond et de tout vous faire pour essayer de le battre.
On était très heureux de te recevoir, Christophe Lemaitre. Merci beaucoup d'être venu ici à Angers pour les championnats de France d'athlétisme et venir ici partager quelques moments avec nous au micro d'RMC pour les grandes gueules du sport. Vraiment, on l'a entendu dans les commentaires, les émotions lors de tes courses et notamment à Rio, mais évidemment, il y en avait d'autres. Merci beaucoup, Christophe Lemaitre.
Et merci à vous.
Une bonne fin de carrière. C'est irrévocable, ça peut changer?
Alors, si jamais, si au mois de juillet, là, je fais un 10-10, bon, je comprends. Hein.
C'est possible, voilà. Ah, okay, merci beaucoup. C'est l'info. Merci d'avoir été avec nous.
En tout cas, si c'est définitif, vraiment immense carrière, bravo à toi. T'as inspiré de nombreuses générations et la mienne en particulier. Je me souviens encore, les Jeux 2012, on était dans la même chambre. Moi, je te regardais à la télé 2 ans avant. Enfin, c'était, voilà, ça fait partie des rêves de gosse, on voulait être comme toi, tu vois. Donc c'était un honneur en tout cas d'avoir fait un bout de chemin avec toi.
Ben merci.
Merci Christophe Lemaitre et à bientôt sur RMC, on l'espère. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour le Tour de France.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport en direct d'Angers.